Bonjour aux présents et aux volontaires qui ont voulu ce cours. Nous poursuivons l'examen de l'étude de la semaine. Ah, désolé, c'est pas très bon tout ça. Parler à présent. Nous allons parler à présent de la Haftara qui se lit cette semaine. Alors, la Haftara, qu'est-ce que c'est? La Haftara, c'est un extrait des prophètes. Vous savez, on l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a rappelé un peu la construction de la Torah, de ce que l'on appelle la Torah, qui est composée du Sefer Torah, des cinq livres de Moshe, disons, enfin donnés à Moshe au Sinaï, plus tous les livres des prophètes, et enfin, troisième partie, les hagiographes, les écrits, qui contiennent par exemple les psaumes, les proverbes, le livre des. Dans la partie prophète, eh bien, on a pris l'habitude de sélectionner des extraits qui sont lus à la suite de la paracha de la semaine. Bien, cette semaine, la paracha nous parle du prophète Élisha, en français Élisée, comme Champs-Élysées, si vous voulez. Eh bien, le prophète Élisha, c'est l'élève et le disciple du grand prophète Élie que tout le monde connaît, le prophète Élie, Éliaou, un avis. Eh bien, le prophète Élisha était aussi un prophète qui était un faiseur de miracles. Et la Haftara, cet extrait donc que nous lisons, va nous rappeler, nous expliquer deux choses différentes. Il va nous expliquer deux miracles d'Encha, enfin deux miracles, deux sujets de miracles. L'un d'eux, c'est une cruche d'huile, en fait, une dame, comment dire, une femme de prophète va voir le prophète Élisha car elle a besoin d'huile. En fait, elle est veuve et elle crie à Élisa, mon mari qui était serviteur de Dieu est mort et ses créanciers veulent prendre ses enfants comme esclaves, ce qui était la règle à l'époque pour payer des dettes. Et donc, il faut comprendre cela déjà. Qui était cette femme et que fait-elle? Cette femme, en fait, c'était la femme d'un prophète, comme on l'a dit, et ce prophète-là était serviteur, était ministre du roi du royaume d'Israël. À cette époque-là, il y avait deux royaumes juifs, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui étaient au nord, donc les 10 tribus. Alors que le royaume de Juda comprend deux tribus, Juda et Benjamin. Dans ce royaume d'Israël, s'était développée Achab, à cette époque, le roi Achab avait comme épouse la fille d'un prêtre idolâtre de Phénicie, l'actuel Liban. Et donc, cette Isabelle, elle a fait tout ce qu'il fallait, c'est Jézabel plus exactement, elle a fait tout ce qu'il fallait pour répandre la croyance idolâtre. Et il poursuivait les prophètes et les tenants de la religion juive. Alors, c'est toute une série, les prophètes reviennent longuement sur tous ces sujets, n'est-ce pas? C'est d'autres sujets avec la lutte d'Éliaou Hanabi contre le roi Achab, c'est un autre sujet. Ici, on a la suite. Élisée et le disciple voient arriver la fille de ce serviteur, de ce premier ministre, en quelque sorte, hein, du roi Achab, qui en fait était un prophète d'Israël, qui a fait pour cacher et nourrir les prophètes, ceux qui étaient poursuivis, ceux qui étaient les tenants de la religion juive authentique. Eh bien, Il a même pris, non seulement il a dilapidé, enfin non, il n'a pas dilapidé, il a utilisé toutes ses ressources pour cela, mais en plus, il a fait des dettes. Il a emprunté pour nourrir ces personnes qui étaient poursuivies. Et lorsqu'il est mort, la veuve a hérité de ses dettes et les créanciers se sont présentés en disant: rembourse-nous, sinon, eh bien, on te prend tes enfants et on va les vendre comme esclaves. Élisée lui demande alors à cette veuve désespérée qui est venue lui parler: qu'est-ce que tu possèdes? Et elle lui a dit: oh, rien du tout, sauf un flacon d'huile. Alors, le prophète Élisée lui a demandé de recueillir des récipients vides et de verser l'huile de la petite cruche, du petit flacon, dans les récipients vides. Alors, elle était étonnée au début parce que la cruche était minuscule. Et son petit flacon était minuscule alors qu'elle devait remplir des bassines, etc., etc. Il lui a même demandé d'aller emprunter parmi ses voisines, chez ses voisines, des récipients vides, et elle a tout installé chez elle, et quand le moment est venu, il lui a dit: eh bien, vas-y, elle a versé. Et le flacon ne se tarissait pas, l'huile se multipliait jusqu'à ce que tous les récipients aient été remplis. Quand elle n'a plus eu de récipient, eh bien, l'huile s'est tarie. Elle a vendu l'huile, elle a payé ses dettes et elle a sauvé ses enfants. Voilà donc le sujet, le pchat, comme on dit, le sens simple de l'un des deux sujets de miracle que l'on a dans cette haftara. Alors, pour continuer à avoir un peu la méthode que l'on a commencé tout à l'heure, avec l'examen des quatre niveaux principaux du Pardès, des quatre niveaux de sens de la Torah, et donc aussi de la Haftarah et de tous nos écrits, le flot, il y a donc un sens allusif, il y a un sens homélitique et il y a un sens mystique. Quel est le sens allusif? Le flot d'huile, c'est une allusion à la Torah. Parce que dans le livre qu'a écrit le roi Salomon, les prophètes, Michelet, dans Michelet, on lit: trésors précieux et huile sont dans la demeure du sage. De cela, nos maîtres expliquent que ça signifie que la Torah est dans la demeure du sage, et donc il y a une relation étroite entre trésors précieux, Torah, et huile. Donc, le flot d'huile que l'on voit ici présenté dans cette Haftara, eh bien, c'est le flot qui évoque la Torah. Et effectivement, quand on a un objet et qu'on le donne à quelqu'un, eh bien, on n'a plus cet objet. Alors que quand on a étudié un peu de Torah et qu'on la donne à qui veut recevoir, comme vous, par exemple, actuellement, eh bien, je ne vais pas m'appauvrir. On a partagé, mais la Torah se multiplie lorsqu'elle est transmise, mais elle n'appauvrit pas celui qui la donne. En fait, la sagesse divine se répand lorsqu'elle est partagée. C'est donc l'image que nous apporte cette huile. Voyez-vous, voir à plusieurs niveaux le sens. La Torah, comme l'huile, donc, ne va pas se tarir. Et de surcroît, on a une autre allusion. Tous ces récipients vides, eh bien, ce sont les âmes prêtes à recevoir la lumière. On a toute une série de demandeurs de Torah, en quelque sorte. Eh bien, tant que l'on accepte de la recevoir, c'est-à-dire tant qu'il y a des récipients à présenter, la Torah se déverse. Voilà une explication, Remel. Je ne prétends pas connaître toutes les explications, hein. Je vous donne le petit peu que je sais, et en essayant de faire cela le plus clair possible, mais bien entendu. Vous m'excuserez, mais je ne peux pas vous donner, après à vous de continuer pour essayer d'approfondir et de compléter ce que j'essaie de présenter pour vous donner une idée un petit peu claire du sujet. Voyons une autre approche, l'approche du drash, l'approche homélitique. Eh bien, la veuve dans ce sujet, est interprétée par les sages d'Israël comme une métaphore du peuple d'Israël en exil, privé de temple, privé de prophétie, privé de souveraineté nationale, mais porteur de foi. Ce que, eh bien, cette veuve qui a été demandée au prophète d'intervenir auprès de Dieu, tout en ayant une... Elle avait une foi gigantesque. Elle avait une foi gigantesque parce qu'elle n'était pas obligée d'aller voir le prophète. Mais elle savait qu'en allant voir le prophète, cela réglerait son problème. Donc, le flacon d'huile, de ce point de vue homélytique, c'est la émouna, la foi qui est intacte chez cette femme malgré les problèmes qui lui sont arrivés. Et donc, ça préfigure quelque part ce sujet, la délivrance messianique, où la foi du peuple jaillit, remplit le monde et obtient des résultats. Résultats que Hachem accède à la demande. Le Maharal de Prague explique que la foi est ce qui reste lorsque tout semble perdu. Et c'est effectivement la foi qui permet la rédemption. La veuve en question, démunie, incarne cette foi résiduelle et cela a permis le miracle parce qu'elle a entièrement fait confiance au prophète. L'huile est donc un symbole de ce potentiel caché, capable de se déployer à l'infini et donc d'arriver à une solution, à une rédemption. Au niveau du quatrième niveau, le niveau mystique, le Harizal, qui est un grand maître de la Kabbale, ayant vécu au XVIe siècle, il enseigne que même une étincelle divine peut se répandre à l'infini si elle est contenue dans des récipients, c'est-à-dire dans des âmes réceptives. Chaque récipient représente à ce niveau-là une âme réceptive et l'huile, à ce niveau de compréhension, qui est celui du sod, ben l'huile est liée à la chokhma, à la sagesse. Et la lumière divine se manifeste dans les mondes inférieurs par des canaux. La veuve elle-même devient un canal et l'huile, une lumière cachée qui va se révéler avec le tikkun, qui est que, eh bien, cela, c'est la révélation de cette lumière a fait en sorte que les enfants de cette veuve ont été libérés. Voilà le premier miracle qui est raconté dans cet haftara avec sa compréhension à plusieurs niveaux. Il y a un deuxième miracle qui est raconté derrière et c'est le sujet principal. Mais on se demande pourquoi il a fallu ce premier sujet dont je vous ai parlé. Ben, peut-être pour nous montrer que Elisha avait ce don comme son maître Élie de Eliyahu Hanavi de faire de très grands miracles. Deuxième miracle, la résurrection d'un enfant. Une femme stérile, il lui a promis un enfant et il lui rend la vie. Ça, c'est donc le pshat qui explique que cette femme-là était très généreuse, etc. Elle, avec l'accord de son mari, le voyant toujours passer dans dans sa localité, eh bien, elle lui a offert un logement, équipé avec lumière, table, lit, etc. Et donc, lui ne savait pas quoi faire pour la remercier, remercier donc son mari indirectement. Qu'a-t-il fait? Et il a vu qu'elle ne manquait de rien, qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle ne réclamait rien. Eh bien, il lui a proposé une aide. Une aide importante, parce qu'Elisha n'était pas n'importe qui au niveau social. Il avait des relations, comme on dirait, et il voulait lui parler en sa faveur au roi ou à un autre personnage important du royaume. Et en fait, elle a dit que non, c'était pas du tout ça qu'elle voulait. Elle lui a dit très exactement, Betor Rami Anochi Yoshevet. J'habite au milieu de mon peuple. C'est au milieu de mon peuple que je réside, ce qui est une manière de lui dire, J'ai pas de gros besoins et je vois pas ce que je ferais d'une faveur royale. Bon. Après, on a une petite allusion encore là-dedans, parce que on voit bien que Betorami Anochi Yoshevet, ce qui veut dire c'est une allusion au roi du monde qui est Hachem, à Dieu, qui habite au sein de son peuple Israël. Puisqu'on nous dit, il est écrit dans la Torah, Ve'asuli Migdash Beshachanti Betocham, faites-moi un sanctuaire, je résiderai en eux, pas dans ce sanctuaire, dans cette maison, en eux, dans le peuple. Donc, quand on parle de Yoshev, Anochi Yoshev, c'est une allusion à Hachem. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en eux, dans les enfants d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'elle dit envoie à Hachem, le roi du monde, sur son trône, ma demande, j'ai pas besoin que tu parles au roi. Et au niveau du Sod, ce miracle nous renvoie à la Tehillat HaMetim, à la résurrection des morts. Et à la réintégration de la Neshama dans le corps. Car Elisha agit comme un canal de lumière divine et on a donc la résurrection de cet enfant. Voilà l'examen rapide de cette paracha sous cet angle. Bien entendu, on peut utiliser d'autres manières de raconter cette paracha. Là, j'ai tenté de vous faire voir les différences. Les différents angles d'attaque, en quelque sorte, du sujet, des angles de compréhension plutôt. Mais, excusez-moi, j'essaie de voir ceci. Oui, on a une leçon pour notre époque aussi, parce que l'Haftara parle le langage, parle les Haftarot sont des extraits des prophètes. Les prophètes sont les prophètes d'Israël et ces prophètes ont parlé pour leur époque, mais il y a eu quantité de prophètes dont on n'a même pas gardé tous les écrits, toutes les paroles. On n'a gardé que les noms maîtres enseignent que les prophètes dont on a gardé la trace des écrits et des paroles aujourd'hui sont ceux qui servent à notre époque. Eh bien, pour notre époque, on peut essayer nous-mêmes, essayer de comprendre et de réfléchir à qu'est-ce que va nous apporter ce sujet. Eh bien, cet Haftara, dans le premier récit, a relaté le miracle de l'huile qui a évité à la veuve du prophète Ovadia de voir ses enfants saisis comme esclaves par ses débiteurs. Il a donc pu, le prophète, renverser la situation en fournissant une abondante quantité d'huile, produit de grande valeur à l'époque, qui lui a permis de rembourser sa dette et de pouvoir continuer à élever sa famille par la suite. Le deuxième récit a raconté le miracle du retour à la vie d'un enfant dont la mère avait été généreuse envers le prophète Elisha. Les deux récits de cet Haftara ont développé un thème majeur, celui du Hesed, et le Midrash enseigne que les actes de bonté de la veuve d'Ovadia Hanavi, la première histoire, étaient tels que sans eux, Hachem aurait envoyé de grandes punitions contre les enfants d'Israël qu'il avait abandonnés, les enfants d'Israël du royaume d'Israël, qui avaient abandonné Hachem pour les idoles. Le second récit a raconté l'hospitalité de cette dame qui habitait une localité de Choumen, c'est dans le nord d'Israël. Et là encore, on met en scène ce sujet du Hesed, puisque, bon, je l'ai expliqué, elle a mis à disposition un local et ce qu'il faut pour pouvoir passer le temps qu'il devait passer dans cette localité. Eh bien, on peut nous-mêmes réfléchir, est-ce que l'on pratique comme il convient la mitzvah d'accueillir des invités? C'est une réflexion, parce que c'est vrai que quand on a des invités, eh bien, il faut, comme nous l'enseigne la paracha, on a vu Abraham à l'œuvre, comment il a reçu des invités, il leur a proposé très peu, il leur a donné beaucoup. Au lieu de proposer beaucoup, passez à la maison quand vous voulez, ok. Mais on ne dit jamais une date, par exemple. Vous voyez? Donc, ou alors, je vais vous donner beaucoup et en fait, qu'est-ce qui est apporté? Très peu. Non, Abraham agit tout autrement. Il propose très peu, mais il apporte abondamment. Donc, c'est une manière, ce n'est pas seulement une question matérielle, accueillir des invités, c'est est-ce qu'on l'accueille avec le sourire? Est-ce qu'on le raccompagne au moins quelques pas après son départ? Ou bien on reste assis dans son fauteuil en disant, allez, ciao, au revoir, et c'est tout. C'est bien quand il parle déjà pour dire au revoir. Il y en a qui ne disent pas au revoir. Bon, donc c'est une réflexion sur ce domaine, entre autres. Ensuite, il y a un autre sujet qui est le sujet de, disons, une autre leçon que l'on peut prendre à notre époque, c'est que, eh bien, ça s'appelle la hakaratatov, le être redevable et reconnaître quand il y a eu une bonté, eh bien, on essaie je ne sais pas comment dire exactement, mais bon, pas dire merci, mais essayer de le reconnaître déjà, de reconnaître la chose. Ne pas considérer que cette gentillesse qu'on nous a faite, bon, après tout, hein, elle est évidente, et puis s'il ne voulait pas, il n'avait qu'à pas la faire, et puis c'est tout. Non. Donc, on a un enfant dans le sujet de l'enfant qui est tombé malade, puis a même perdu la vie, eh bien, le prophète l'a donc a réparé cette erreur qui n'était pas la sienne. Mais il l'a fait parce qu'il avait aussi une reconnaissance par rapport à cette dame qu'il avait accueillie. Encore une autre idée, c'est une autre idée que l'on pourrait tirer, si on le veut, qu'on essaie de rechercher dans cet haftara, c'est l'aide à ceux qui étudient la Torah. Parce que de la vie du prophète Ovadia, c'est-à-dire le mari de la veuve de la première histoire, on apprend l'importance de l'aide aux Talmidei Chachamim. Voilà quelqu'un qui était prophète, certes, mais il était aussi un des personnages les plus importants du royaume d'Israël, du roi Achab. Il n'a pas hésité à utiliser tous ses biens pour pouvoir aider les prophètes pourchassés par les souverains impies du royaume d'Israël de cette époque, du royaume dont la capitale n'était pas Jérusalem, mais Chomron. Eh bien, non seulement il a utilisé tous ses biens, mais on l'a vu, il a même emprunté pour pouvoir aider ses Talmidei Chachamim. Donc, le thème que l'on peut voir, c'est qu'il n'est pas inutile, évidemment, c'est un thème qui apparaît aussi dans une leçon que l'on reçoit en étudiant cette Haftara. Eh bien, l'aide à ceux qui étudient la Torah est une chose importante. Voilà, ça c'est un thème, voilà donc, j'ai bouclé à peu près ce thème, mais cette Haftara, bien entendu, est loin de nous avoir livré tout son contenu. Je n'aurai pas le temps de développer le deuxième thème que je voulais aborder, mais c'est celui du médecin, de la maladie et de la mort dans le judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est toujours une religion, c'est une religion de vie. Il est écrit, ou Baharta Bahayim, et tu choisiras la vie. C'est-à-dire la véritable vie, faite d'épanouissement, d'harmonie. Le judaïsme ne prône pas la souffrance. Donc, il ne faut pas se dire, oui, on souffre, mais ça fait rien, c'est bien, ça me sera compté quelque part. Non, on pense à soulager les souffrances des malades. Comment on peut se dire, comment Dieu, qui est bon, peut-il envoyer la maladie? Et si telle est la volonté divine, sommes-nous autorisés à combattre les effets de sa volonté en soignant? Alors le médecin qui va soigner quelqu'un, il pourrait se dire, Dieu lui a donné une maladie, mais de quel droit moi je vais enlever cette maladie? Eh bien non, pas du tout. C'est une très mauvaise réflexion. On a le droit, nos chachamim considèrent qu'on a tout à fait le droit d'intervenir sur cette décision divine de maladie et tout est autorisé jusqu'au moment où on trouve un verset contraire. Or, un verset pourrait nous faire réfléchir, c'est-à-dire lier les mains du médecin. Parce qu'on a un verset dans Shemot, dans le deuxième livre de la Torah, qui nous dit « Ki ani Hashem rofecha » car moi, Hachem, je suis tombé de saint. Oh, mais alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'on n'a pas besoin d'autres médecins, puisqu'on en a un, et peut-être n'aurait-on pas le droit, n'aurait-on pas la permission. Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a une répétition après dans un verset, Verapo irapé, qui indique que nous aurons le devoir de soigner. Nos maîtres déduisent de cela, nous avons bien le devoir de soigner. Hierapé, c'est un verbe actif, il doit soigner. Voilà donc la source toraïque d'où vient la légitimité de la médecine pour le judaïsme, et elle est tirée, bien évidemment, d'un verset de la Torah. D'ailleurs, de nombreux rabbins ont pu être médecins, on connaît tous Rambam, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà quelques lumières sur cette haftara, et je crois que on peut se quitter pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous être un petit peu utile. Au revoir.
Intéressant, mais bon, c'est...
Quelqu'un parle? J'écoute.